Les rendez-vous, the meeting.
Les rendez-vous,
the meeting of the opera studio. Ontmoeten aan het opera studio.
Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous,
l'appuntamento dell'opera studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
Ça vient ça.
Les lents et fous, les sans les roues, les.
C'est donc.
Les lents des roues, le.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros del Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
chers auditrices et auditeurs, de RDL 68, je reçois aujourd'hui dans les rendez-vous de l'Opéra Studio une femme rayonnante, artiste généreuse et éclectique, qui a chanté sur de nombreuses scènes internationales, qui a été dirigée par les plus grands chefs d'orchestre et metteurs en scène. Elle est aussi passeuse de savoir passionnée. La liste pourrait s'allonger encore, mais je m'arrête là. Chère Patricia Petitbon, bonjour.
Bonjour.
Alors, chère Patricia, première question. Qu'es-tu venue faire ici à Colmar en cette deuxième semaine de l'année 2026?
Eh bien, ma grande surprise, j'ai reçu une invitation pour transmettre, pour rencontrer les étudiants, enfin les jeunes artistes de l'Opéra Studio. Et évidemment, la transmission fait partie de mon parcours depuis très très longtemps, parce que je viens moi-même d'une famille de professeurs et d'enseignants assez particuliers, assez pugnaces et tenaces. Et donc, c'est un moment très important aussi dans ma vie de pouvoir de transmettre.
Très bien, mais oui, c'est vrai que c'est
et
un
pas
grand
trop
plaisir.
Tard.
Non, mais ben, jamais
voilà,
trop
pas,
tard.
Pas, non, non, non. Pas 80 ans, en tout
non,
cas,
non,
ne pas
non,
commencer
non.
à 80 ans.
Non, non, mais tu es éternellement jeune, donc il n'y a pas de problème. Là, on laisse tomber le facteur temps, tout va bien. Alors, si on rembobine un petit peu, je voudrais savoir, on va retourner un petit peu dans ton enfance, et je voudrais savoir depuis quand tu fais de la musique, et surtout, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu as voulu faire ce métier?
Alors, c'est un élément tout à fait, je dirais, c'est un élément presque extraordinaire et extraterrestre. C'est la confrontation avec les premières images du premier homme qui a marché sur la Lune, qui est Neil Armstrong.
Ah, très bien. Alors, donc, le lien avec ces deux événements, enfin, cet événement et ta carrière?
C'est l'appel, je dirais, de la transcendance, de ce qui est beau. Ce qui pour moi a été vraiment la définition d'un ailleurs, d'une chose qui élevait l'imaginaire. Et c'est vrai que dans les yeux d'un enfant, on va dire qu'on ne trouve pas vraiment les mots, mais je pense que c'est surtout une recherche du concept de la beauté, peut-être pour s'échapper du concept qu'on comprend assez vite de la laideur, hein, d'une certaine manière, de mettre l'être humain là où il est le plus confortable, le plus doudou, le plus sympathique. Et pour moi, la musique, c'est cette recherche de l'espace-temps, où tout est possible. C'est un abécédaire avec des sons, c'est-à-dire c'est un alphabet qui raconte beaucoup de choses sans les mots, qui est universel, qui permet le contact avec l'autre, qui permet de jouer avec l'autre. Et donc, cette notion de ne pas être seul à travers l'art, c'était ludique aussi pour moi.
Mais alors, après ce choc d'avoir vu ce premier homme marcher sur la Lune et ce que ça a déclenché chez toi, très concrètement, qu'est-ce qui s'est passé après? Tu as dit à tes parents, je voudrais faire de la musique.
Non, je voulais être cosmonaute déjà.
Ah bah oui, c'est vrai, c'est plus logique finalement.
Voilà.
Oui, oui.
Mais j'ai demandé très très tôt, oui, à l'âge de 4 ans, de faire du piano.
Ah oui.
Voilà, donc on m'a mis très très tôt à l'école de musique. Alors, je sais que c'était un petit peu tôt, mais finalement, je me souviens très bien le directeur de cette école de musique qui maintenant porte mon nom, comme quoi les choses sont très étranges dans la vie. Jamais j'aurais pu imaginer une chose pareille, c'est l'école de musique de Montargis. Il a accepté qu'on m'inscrive très tôt. Parce qu'à l'époque, c'était toujours la même histoire. Ça l'est toujours. D'ailleurs, pour moi, c'est une aberration. C'est qu'on veut absolument que les enfants fassent du solfège, que la musique soit, comment dire, concrète. Et bon, moi, j'avais certainement un sens du rythme, quelque chose qui permettait de voir que, bah, il se passait quelque chose. Et donc, finalement, j'ai été inscrite très, très tôt. On a bien voulu. On dit, ah, mais cette petite, peut-être, elle aime la musique, il y a quelque chose. Donc voilà. Ça a commencé comme ça. Comment vous dire? Comme j'ai toujours été pugnace, tenace, j'ai poursuivi mes études, mais j'ai eu un moment de bug. Dans mes études de jeune musicienne, je ne comprenais plus ce qu'était le solfège. Pour moi, il était trop restrictif. J'avais besoin de m'en échapper, d'être un petit peu comme les enfants un peu brésiliens ou africains, vous voyez, qui ont le sens du rythme, qui ont le sens de l'improvisation. C'est la seule chose que j'ai trouvé un peu étriquée dans les conservatoires. Mais je m'en suis vite échappée.
Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que c'est une aide, en fait. C'est comme un canevas quand on regarde une partition. Effectivement, il y a des notes, des rythmes, des indications. Mais l'essentiel, en fait, il faut le trouver.
Dans la sensation.
Exactement. Voilà. Il faut recréer la musique. En fait, c'est une aide. Enfin, je pense, en fait. Mais c'est vrai que.
En tout cas, il faut avoir conscience qu'on a un corps, qu'on a une manière aussi de ne pas forcément avoir un support pour faire de la musique. Et souvent, les classiques, musiciens classiques, ont beaucoup de mal avec ça, s'échapper du support.
Ah, ça, c'est vrai. Oui.
Je pense que c'est en train de changer. Il a fallu beaucoup, beaucoup d'années pour que ça change. Nous sommes, voilà, sur ce chemin-là. Mais pour moi, les sensations sont peut-être les choses les plus importantes dans la vie.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut trouver peut-être un juste milieu avec quelque chose de concret et quelque chose d'un peu... sur quoi
mais
s'appuyer
quel,
pour
mais,
pouvoir
oui,
après,
eh ben,
alors, ça peut
alors,
être autre chose que le solfège justement la chose sur quoi s'appuyer
oui et
peut-être.
Non de toute façon je pense qu'on est tous confrontés au vide à un moment donné dans sa vie. Le fait d'être confronté à ne plus rien avoir nous met face à une autre forme de logique et d'investissement. C'est ça que je veux dire. C'est pas juste au niveau de la musique, mais c'est au niveau tout simplement de notre philosophie aussi de vie, de chemin, d'accomplissement, de savoir lâcher prise sur beaucoup de choses.
Mais alors, si demain tu avais un enfant là qui veut faire de la musique, par quel bout tu prendrais les choses? Parce que c'est intéressant ça d'essayer de trouver une autre façon d'aborder la musique et de la faire aimer, de la faire ressentir à des enfants ou bien de partir de ce qu'ils ressentent,
le jeu de l'improvisation, surtout lui laisser une grande place pour l'imaginaire, de la sensation, ensuite retourner peut-être à l'écrit, mais vraiment d'une manière très ludique. Si on regarde les grandes jazzman, il y avait pas d'école. C'était vraiment l'école de la vie. Il a fallu beaucoup, beaucoup de décennies pour qu'il y ait des écoles, pour qu'ils puissent apprendre. Classe de jazz, Conservatoire supérieur de Paris, ça n'existait pas. Moi, à mon époque, enfin, je veux dire, je suis née en 1970, donc si j'avais pu faire de la comédie musicale, j'en aurais fait. Si j'avais voulu faire des claquettes, j'en aurais fait. Bon.
Oui, c'est vrai.
Aux États-Unis, par exemple, c'est vrai qu'il y a une chose qui est assez incroyable, c'est ce mélange. Vous pouvez vous retrouver dans un bâtiment où il y aura de la comédie musicale et vous faites du classique. J'ai travaillé aussi là-bas à New York. Je pouvais travailler avec des chanteurs qui, pendant la journée, chantaient Pélléas et Mélisande avec moi, puis le soir, aller à Broadway chanter. Ça, je trouve que c'est essentiel. Et ensuite, évidemment, c'est ça, échapper au formatage, échapper au conventionnel, mettre un peu de virus aussi dans son enseignement, pouvoir inventer, pouvoir se retourner face à n'importe quelle situation. Moi, c'est vrai que je n'aime pas les tables trop arrondies. Alors évidemment, il faut s'arrondir dans la vie, mais il faut aussi s'en échapper. Ça fait partie de cette chose sympathique des individus, d'une forme de petite marginalité, je dirais, qui, de toute façon, va vers l'invention. On a besoin de ça.
De toute façon, c'est l'essence même de l'artiste.
Voilà.
Il est là pour inventer, imaginer, faire passer une émotion. Et donc, en fait, la musique est un vecteur. Donc, comment on s'en sert? Et
Voilà, chacun peut l'inventer, c'est vrai. Mais c'est vrai que tout est très structuré, comme aussi quand je fais le conservatoire, ben on fait le solfège, on fait... Voilà, c'est tout très carré. Et c'est vrai qu'on a du mal par la suite à s'échapper de ce contexte et aller vers l'improvisation. Parce que pour nous, l'improvisation en classique, c'est pas... Peut-être dans le baroque, il y a une part plus
importante. Oui, il y a une part d'improvisation. Il y a une part d'improvisation actuellement. Une nouvelle forme de génération arrive au niveau de... Vous avez des artistes classiques qui ont des formations classiques, par exemple les pianistes. Et puis tout d'un coup, ils font aussi une formation de jazz. Et puis, il y a une forme d'hybridation qui est en train de se mettre en place. Moi, je pense que la musique classique va avoir une forme d'hybridation avec toutes sortes de courants artistiques. Et je pense qu'il faut la réinventer, d'ailleurs. Parce que nous sommes face à des crises, une crise économique, une crise aussi au niveau du public. Et là, j'ai l'impression qu'on est à une forme de croisée de chemin, un nouveau continent, d'une certaine manière. Donc, l'avenir va appartenir à ceux qui vont apporter une autre lecture aussi de la musique classique et qui vont réinventer cet ancien continent. Ils vont pouvoir le réaménager. Ça fait partie de la vie. C'est le millefeuille, c'est comme les villes. Il y a des cimetières carovingiens, puis tout d'un coup, il y a un métro qui se met dessus. Et voilà. C'est exactement la même chose pour l'histoire de l'art, l'histoire de la musique, l'histoire des sciences, de la physique et toute forme d'existence humaine.
Tout de suite, chère Patricia, une première pause musicale.
Thank you.
très bel extrait que nous venons d'écouter à l'instant, interprété par Patricia Petitbon. Patricia, pourquoi as-tu choisi cet extrait ?
Eh bien, c'est un extrait, d'abord c'est tiré d'un opéra qui s'appelle Alcina, de Handel. C'est une magicienne, mais c'est aussi la concrétisation d'un moment assez fort, je dirais, dans ma vie d'artiste. C'était à Aix-en-Provence, c'est du direct, c'est du live. Et ça correspond à mon idée d'un microcosme, d'un macrocosme où l'espace-temps s'arrête. Il y a une forme d'éternité, beaucoup de travail pour un air qui parle d'un désespoir amoureux, d'une magicienne qui veut tout contrôler dans sa vie. À la baguette, Andrea Marcon, avec qui j'ai fait beaucoup de choses aussi. Et donc, ça correspond à un moment où tout est imbriqué pour le meilleur, en fait. C'est des moments très rares sur scène où on les embrasse avec vraiment un grand, grand bonheur. Et c'est avec Katie Mitchell, une grande metteuse en scène aussi. Et je sais que je n'ai plus voulu ensuite faire Alcina. Pour moi, j'avais touché à quelque chose que je n'allais plus retrouver. Je le savais. J'ai dit à Katie, c'est terminé. Je ne chanterai plus Alcina avec qui que ce soit.
Et puis dans cet extrait, je dois dire qu'on retrouve un petit peu cette sensation d'espace, d'ailleurs, d'immense, de cosmos. Et le premier choc donc que tu as eu avec ce premier homme toujours qui a marché sur la Lune. Et donc c'est vrai que on y pense tout de suite maintenant qu'on sait...
C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où vient le son, en fait.
Oui,
le premier son, où on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas de quel ventre s'extrait.
Oui.
Et c'est vrai que c'est une musique assez extraordinaire, celle d'Handel, très contemporaine. Mais en tout cas, lorsque tout est réuni, des collègues extraordinaires, c'était aux côtés de Philippe Jarouski, qui était un contre-ténor exceptionnel, une mise en scène exceptionnelle, un orchestre exceptionnel. Tout est réuni, tout d'un coup, le Rubik's Cube trouve la solution, la formule mathématique pour que toute cette concentration devienne elle soit à la fois dans le présent, dans le futur, dans le passé. Il y a un mélange du temps, et ça, ce sont des moments très très rares. Alors évidemment, c'est juste ma sensation, mais il m'a semblé que de l'autre côté il se passait quelque chose aussi. Et quand on a cette ça donne le vertige, hein. Ça donne vraiment le vertige, et on travaille toute une vie pour peut-être une minute, 30 secondes de bonheur absolu et de une sorte de grand tout comme ça, inexplicable.
Oui, ou tout ce
voilà, c'est un
tout
mystère.
S'équilibre. Oui, c'est ça,
voilà.
C'est un genre de mystère, c'est vrai. Et cette voix dont tu dis qu'elle sort du ventre, on ne sait pas où, en fait, comment pourrais-tu la caractériser ? Parce qu'on dit que voilà, tu es une soprano coloratour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est trop réducteur ? Est-ce que tu conçois ta voix et le répertoire que tu peux explorer avec cette voix d'une manière différente ?
Alors, c'est vrai qu'on donne... On donne un titre à notre voix, coloratour, ça veut dire une voix agile, pyrotechnique. Il y a toute forme de coloratour, il y a des mezzo coloratour, enfin des alto coloratour, des ténors coloratour. Bon, voilà, avec une tessiture très très longue. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que chaque voix est singulière et a un ADN particulier. On ne peut pas se comparer à un autre chanteur ou pas. On doit connaître ses limites et en même temps aussi toutes ses possibilités. Je ne me suis jamais considérée comme une chanteuse. C'est ça l'histoire.
Mais c'est-à-dire, c'est plus large. Tu te considères comme une artiste. Enfin, tu as quelque chose à dire. Enfin, tu te sers de ta voix pour exprimer, pour ressentir des choses.
C'est-à-dire que il peut y avoir, on va dire, l'exploit technique, mais en même temps, quand on est au cœur des années où on travaille un peu, on est un peu une exploratrice, un explorateur, un peu comme Indiana Jones. Hein, tout d'un coup, on a réussi à trouver le Minotaure dans les couloirs. Il y a une forme d'inconscience aussi, de conscience. Et plus on vieillit, plus la conscience devient très, très présente. Mais je crois que même à l'heure d'aujourd'hui, Je ne me considère pas comme une chanteuse parce que c'est tellement athlétique au moment où on doit le faire qu'on devient chanteur, entre guillemets, que lorsqu'on monte sur scène. Mais on n'est pas chanteur dans sa salle de bain ou dans la rue. Et c'est ça qui est, c'est cette transformation, cette métamorphose magique de l'artiste qui, évidemment, travaille. Puis tout d'un coup, on se place au milieu de la scène et on accepte ses défauts, parce que c'est ça aussi. Et on essaie de trouver la force, mais on est entre la faille, la force, et on essaie de se laisser traverser par autre chose. Pour moi, c'est ça la grande leçon de la musique, c'est à la fois l'humilité et la force d'aller au-delà.
Et puis apprendre à se connaître, comme tu dis, plus on vieillit, plus on a conscience des choses. Et en fait, c'est pas forcément plus facile, parce que quand on est jeune, justement, comme on n'a pas conscience de toutes les entraves possibles, parfois on arrive à faire des choses incroyables.
Oui, c'est-à-dire, je pense que à chaque âge, c'est difficulté.
Oui, c'est vrai.
Chaque âge, c'est difficulté. On apprend aussi à perdre, à laisser de côté. Je pense que quand on est chanteur ou athlète de très haut niveau, on apprend ce que sont, d'une certaine façon, très métaphorique, des petites morts. C'est un apprentissage de la vie. Il faut lâcher sur le côté, peut-être pour renaître d'une autre manière, en tout cas ne pas se dévaloriser par rapport à ça, ou juste se comparer à un moment clé de sa vie où on est, oui, avec des super pouvoirs. Parce que le physique, à un moment donné, c'est vrai, quand on arrive dans le cœur de l'âge, de la maturité, un chanteur, quand il arrive à 40 ans, il est au summum de ses possibilités. Voilà. Mais je pense qu'on apprend avec beaucoup d'humilité, d'abord à être toujours heureux à n'importe quel âge de sa vie, à ne pas regretter. Et puis, ma foi, il faut vivre. Il faut vivre avec ce qu'on est, quoi.
C'est ça. Et pour vivre avec ce qu'on est, comment arrives-tu à allier la vie personnelle et la vie professionnelle? Parce qu'on sait qu'un chanteur, un artiste, ça a souvent la valise à la main, c'est souvent dans un hôtel. Est-ce que c'est facile? Et puis, il faut travailler les rôles qui suivent. Puis, on vient d'un rôle qu'on vient de faire, donc on est fatigué. On fait un petit deuil, parce que chaque fin de production reste un petit deuil, surtout quand ça s'est bien passé. Comment on fait pour se retrouver là-dedans?
Je pense que il faut surtout s'écouter beaucoup au niveau de son physique. Il ne faut pas être trop vouloir, en fait. Il faut avoir un côté très cartésien, terre à terre de son corps. Se dire, alors moi, j'étais pas une folle de la valise, je le suis toujours pas. Mais quand je m'investis quelque part, je m'investis à fond. Et ensuite, c'est très compliqué actuellement parce qu'évidemment, le personnel, la vie privée est relié. Nous, les artistes, tout est mélangé, en fait, parce qu'on est artiste aussi dans sa vie personnelle. On ne vit peut-être pas comme les autres. On ne peut pas vivre comme tout le monde. Moi, je ne pourrais pas. Je pense que je suis quelqu'un qui aime explorer le monde, qui aime explorer les autres. J'ai pas une vie, réglée.
Oui. Dans un sens, elle est réglée, déréglée. Enfin, disons,
oui,
c'est une forme de vie.
Il m'est arrivé de partir pendant Noël. Tout le monde n'est pas capable. C'est-à-dire qu'il faut un paquet de nerfs tout de même, de résilience. Et en même temps, on a choisi. C'est un bonheur aussi de pouvoir travailler de son art. Donc, on a une chance exceptionnelle de pouvoir travailler et de pouvoir en vivre. Donc, il n'y a aucun sacrifice, je pense, dans ce choix-là. Et ensuite, vous savez, c'est comme tout dans la vie, on fait des rencontres absolument exceptionnelles. Et moi, par cette voie-là, j'aime pas dire métier, parce que c'est un métier, ce serait peut-être trop réducteur pour cette chose si mystérieuse qu'est la voix. Mais sur mon chemin, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, que ce soit des boulangers, des artistes, des sculpteurs, des bergers, des astrophysiciens, des explorateurs, des plongeurs, des photographes. Mais je veux dire, je suis pas forcément des amis musiciens, j'ai des gens qui explorent le monde à leur manière.
Oui, finalement, c'est eux aussi qui
nourrissent.
Qui ont fait que cette vie est celle-ci.
Oui.
La vie que tu as choisie,
oui.
Et qui se construit avec les autres.
Voilà.
Comme quand on fait de la musique
et
avec
puis,
les autres.
J'ai un fils aussi qui... Les chats font pas des chiens. Alors qui ne fait pas de musique, mais qui est aussi une forme d'exploration avec la nature, avec les animaux, avec des choses assez étranges. Et je trouve que quelque part, peut-être que j'ai moins de rigidité par rapport à la société, où je me dis que tout est possible quand on veut explorer quelque chose, pas forcément dans... C'est-à-dire que j'aime le cadre, mais je ne l'aime pas non plus. Je crois forcément à l'individu, quoi. À sa capacité.
C'est un autre cadre. En fait, c'est une philosophie de vie, finalement. Donc, ça revient à adopter une certaine philosophie de vie. Enfin, ou suivre sa philosophie.
Je n'aime pas ce qu'on fait de l'individu actuellement, de sa réduction. Je déteste ça. Je déteste qu'on réduise les enfants à un petit carré. Je crois que moi, je suis plutôt exponentielle. Dans le fait de croire en l'individu, en ses capacités. On ne peut jamais jurer de ce que va devenir quelqu'un.
Tout de suite, chère Patricia, le deuxième extrait que tu as choisi. Voilà, très éloigné de la musique qu'on entend dans un opéra avec ce Kid, avec Didier Lockwood. Pourquoi, chère Patricia, as-tu choisi cet extrait?
Parce que pour moi, c'est vraiment la, comment dire, sorte de quintessence de la joie. Didier était mon mari, il est parti il y a 8 ans pratiquement, très brusquement. Et c'est un homme qui m'a ouvert l'espace. qui savait donner aux autres, aux enfants, de par son enseignement, mais aussi cette générosité, cette joie très communicative. Et je crois foncièrement que quand les êtres nous quittent, nous devenons aussi un peu d'eux. Et je crois que il m'a appris le principal. Il m'a transmis vraiment cette joie au-delà des épreuves et de croire en l'autre aussi. Et finalement, peut-être cette forme de transmission, nous avions évidemment énormément de points communs avec Didier, ne serait-ce évidemment l'amour partagé, mais c'est un des plus beaux êtres que j'ai rencontrés dans toute ma vie et qui sera toujours dans ma vie. Donc, il y a cette force-là de croire en l'autre, de pouvoir explorer l'autre, de lui donner de la force à travers la musique, à travers les répertoires. Et Dieu sait si Didier a beaucoup changé les choses, parce que c'est quand même lui qui a fait aussi que les conservatoires, maintenant où il y a de la musique actuelle, les cours de jazz, il a beaucoup œuvré pour que les conservatoires changent. Et il avait une idée très particulière sur l'enseignement, justement, sur l'improvisation. Donc j'ai... Voilà, il y a toutes sortes de choses. Et puis, ce côté lutin, zébulon, déjà, c'était un virus à lui-même quand il est arrivé. Il a commencé très, très jeune. L'histoire de Didier, elle est extraordinaire. Il faisait quand même du violon classique. Et puis, au moment de passer son prix, il est tombé. Et on a dû lui mettre une broche dans son bras. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à improviser avec son frère, Francis Lecoude. C'est comme ça que c'est devenu un des plus grands violoniste de jazz. Son mentor, c'était Grappelli. Et puis, il a commencé très jeune. Il n'a pas passé son bac. Il est parti avec un groupe de rock qui s'appelait Magma. Je ne sais pas si vous voyez, à l'époque, c'était très, très connu. Il a joué avec Miles. Il a joué avec des grands jazzmen américains. Mais c'est-à-dire, c'est vraiment un parcours très solitaire, très courageux, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'école, comme je vous dis. Et donc, voilà, après, il a créé sa propre école. Il a voulu véritablement se démarquer d'une certaine manière parce qu'il avait cette générosité communicative, absolument, c'était un être vraiment solaire, quoi. Donc The Kid, c'est un de ses tubes, et c'est vrai que j'aime beaucoup écouter de temps en temps tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enregistré, mais c'est quelqu'un je dirais pas que c'est quelqu'un, mais Didier m'accompagne chaque jour de ma vie.
Pour rebondir sur transmission, apprentissage. Je pense que tu participes très régulièrement, ou tu as créé, enfin tu vas nous en parler. Est-ce que tu peux nous parler des chants d'Ulysse, l'académie Les Chants d'Ulysse?
Alors oui, Les Chants d'Ulysse, je l'ai créé dans les Pays de la Loire, entre Saumur et Fontevraud, avec Héloïse Gaillard, qui est chef d'un ensemble qui s'appelle Amaryllis, de la musique baroque. Et en fait, on a voulu... Pourquoi Les Chants d'Ulysse? Parce qu'Ulysse, c'est un personnage qui est courageux, qui a un côté féminin, qui pleure, qui transcende les éléments, et aussi qui fait appel aussi à cette histoire de l'Antiquité grecque, qu'on trouve la part d'héroïsme en chacun de nous. Et je trouve que ça, c'est très, très intéressant de trouver cette part d'héroïsme, pas forcément dû à sa classe sociale ou à une histoire de compétitivité, mais trouver son propre chemin. Et il y a ce temps grec, ce temps lent dont on a un peu oublié, on va dire, les origines, puisqu'on est dans un temps plutôt rapide actuellement. Donc, c'est l'idée de créer une troupe, presque comme Molière, de travailler sur plusieurs répertoires, de pouvoir confronter les étudiants, enfin les académiciens aussi, à des astrophysiciens, à des mélanges de cultures, de que la musique soit toujours en lien avec quelque chose auquel on n'aurait pas pensé, un explorateur, un biologiste, mais aussi faire du pilates, faire de l'absurde, faire du théâtre, imaginer, improviser, faire de la comédie musicale. Et donc sur ces 10 jours, les étudiants vont faire évidemment des concerts, que ça soit de la musique un peu profane, religieuse, mais aussi un grand spectacle où là vraiment on peut dire que c'est vraiment un travail de troupe, c'est un Rubik's Cube, jusqu'au dernier moment on invente. Et ce facteur risque Je trouve que c'est intéressant parce que émerge de là, on doit trouver des solutions jusqu'au dernier moment. Donc c'est, je trouve que voilà, travailler sur l'idée de la troupe, une nouvelle forme de troupe, pas ancienne, c'est intéressant. Enfin, pour moi, c'est aussi mon univers. Voilà.
Et cette académie, elle a lieu tous les ans? À quelle période?
Elle a lieu tous les ans. Là, elle aura lieu du 4 juillet au 12 juillet. Donc, inscrivez-vous, allez voir. Il y a un teaser qui circule. Cherchez les Chants d'Ulysse ou allez sur mon site, Patricia Petitbon, sur Instagram ou sur mon YouTube. Enfin, non, mon Facebook, vous aurez des informations.
Très bien, le message est passé.
Musicien et chanteur.
Oui, musicien et chanteur. Très bien. À vos ordinateurs, donc les jeunes artistes. Je voudrais savoir une petite chose aussi. Est-ce que, dans un petit coin de ta mémoire, tu aurais une anecdote amusante à nous raconter? Ou quelque chose d'insolite ou un truc incroyable qui te serait arrivé?
Oh, oui, un truc très, très, très drôle. je ne sais pas si je peux le raconter, mais en fait, j'ai eu... Je devais faire l'enlèvement au sérail. Je ne dirais pas où, dans un endroit assez prestigieux. Et en fait, le chef d'orchestre n'était pas du tout venu pendant toutes les répétitions. Ah. Voilà, c'était très intéressant. Donc, il arrive à la... À la pré-générale, donc vraiment
le processus
dernier
de
moment,
répétition.
Donc voilà, jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, et puis là il me prend un tempo sur un désert, mais un tempo de d'éléphant quoi. Donc je le fais, mais j'en peux plus.
C'est-à-dire trop lent.
Trop lent, donc je vais à la fin de la répétition, enfin je m'approche de la fosse, je dis maestro avec beaucoup d'élégance, je dis serait-il possible d'avoir un tempo un peu plus allant car j'ai un tout petit peu souffert. Je lui demande ça avec les formes. Et là, il lève les mains au ciel et il me fait une chose vraiment terrifiante, il me fait Mozart en regardant
le ciel. Non.
Et là il me dit Allegro, je ne sais plus quoi, ce n'est pas andante, enfin une chose, enfin. Et là, je le regarde, je lui lève les mains au ciel, je dis Mozart est mort, je suis vivante. Je dis la musique n'est pas un cercle ou un triangle, et tout ça en anglais, je dis s'il vous plaît. Et là, alors, confusion, tout le monde, oh mon Dieu, oh, bah, bah. Bon, voilà. Je me retrouve l'après-midi à devoir faire une répétition avec le directeur.
Dans la salle,
Dans le sous-sol, dans la cave. Oui. Et là, le chef d'orchestre me dit, mais est-ce que vous comprenez ce que vous chantez? J'ai dit, monsieur, je comprends chaque particule de ce que je chante. Voilà à quoi on est confronté. J'ai dit, mais ne vous inquiétez pas, je ferai votre tempo, si c'est ça que vous voulez véritablement. Je vais m'extraire 2 minutes dans le décor. J'ai dit, et là, je m'adresse à Mozart. J'ai dit, écoute, tu peux pas me laisser dans cette mouise.
Oui.
C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas pas me laisser comme ça. Le lendemain, il était malade.
Ah!
Et il a pas fait les 5 représentations.
Ah mon Dieu. Donc, un autre chef a encore été arrivé.
Et c'était génial. Et c'était il a pris super. Mon tempo. Et après, je devais revenir pour une autre série de représentations. Donc, on se retrouve à répéter dans le studio. On n'évoque pas du tout l'histoire de ce tempo. Et j'étais la seule le lendemain à qui il a fait le tempo que je voulais. C'est étrange la
comme
vie
quoi.
Tout de même.
Comme quoi.
Quand on lâche prise et quand on appelle Mozart, il y a des choses.
Oui, c'est ça. Super Mozart est arrivé.
Mais je ne dirais pas qui.
Non,
connu.
Nous restons discrets. je voudrais envoyer un dernier extrait choisi par toi, chère Patricia, pour... on arrive à la fin de l'émission.
Oui.
On va le diffuser quand même. Merci, Francis.
Lorsque je vis chuchote, elle me pue carrément. Je lui dis, êtes-vous mascotte?
Mais monsieur, certainement.
Alors, sans plus attendre, je veux être votre époux. Elle me répond d'un air tendre.
Je veux bien être à vous. Mais pour cela, il vous faudra demander ma main à papa.
Allons-y, chuchote, chuchote. Allons-y, chuchote, chuchote, allons-y. Allons-y, chuchote, chuchote. Allons-y, chuchote, chuchote, allons-y.
Chuchote. C'est mignon.
Le soir.
soir du mariage, une fois rentré chez nous, je prends la fleur de son corsage, je fourre mon nez partout.
Alors,
me dit ma femme,
avant tout, écoute-moi, je vais couronner ta flamme, puisque tu m'aimes pour moi. Mais pour cela, il te faudra ne pas me chatouiller sous le bras.
Allons-y, chuchote, chuchote, allons-y, chuchote, chuchote, allons-y, allons-y, chuchote, chuchote, allons-y, chuchote, chuchote, allons-y. Au moment d'y affaire, on entend sur le boulevard un refrain populaire. Et comme un bruit de pétard, c'est une sérénade que donne en notre honneur une bande de camarades qui travaillent tous en cœur, s'accompagnant des instruments en carton, accordé à fond. Allons-y, chuchote, chuchote, allons-y, chuchote. Allons-y, chuchote, chuchote, allons-y, chuchote, chuchote, allons-y.
Albert, arrêtez de m'appeler chuchote.
Le lendemain, chuchote me dit,
mon petit Albert, je veux un fils qui dégote Mozart et Meyerbeer pour en faire un prix de Rome. T'achèteras un phono, tu monteras mon petit homme au
Neuf mois après, chuchote me rend papa d'un garçon à ses cris, sa perlante. La sage-femme, que vois-je donc?
Avez-vous donc, madame, pourquoi crier si haut?
Lui demande à ma femme,
n'a-t-il pas tout ce qu'il faut?
Oui, mais voilà, on peut lire là sur son petit nombril, ce refrain long. Allons-y, chuchote, chuchote, allons-y, chuchote, chuchote, allons-y. Allons-y, chuchote, chuchote, allons-y, chuchote, chuchote, allons-y.
Arrêtez de m'appeler chuchote.
Je m'appelle chuchote si je veux.
Un extrait un petit peu loufoque que vous interprétez, que tu interprètes, pardon, chère Patricia, avec un monsieur qui n'est pas forcément un chanteur dans sa vie d'artiste.
Ah ben si, en fait, Olivier, ah, mais oui, il fait beaucoup de cabaret.
Oui, ah oui, ben on le connaît mieux comme metteur en scène, quand même.
Oui, non, mais on le connaît quand même comme Miss Knife. Il fait quand même beaucoup, il a écrit beaucoup de chansons aussi. Ben, c'est-à-dire qu'Olivier, il est à la fois poète, dramaturge, metteur en scène... Il a toutes les étiquettes. C'est mon frère, c'est une rencontre aussi exceptionnelle. C'est un compagnonnage sur des années. C'est extraordinaire aussi d'avoir encore eu la chance de pouvoir être accompagné par un grand metteur en scène et d'avoir pu faire des rôles clés et des choses que je voulais faire avec lui. Donc c'est rare.
C'est rare, mais on peut s'amuser aussi. Vous a entendu dans Allons-y, chuchote.
Voilà, c'est-à-dire, oui, on laisse vraiment la voix. On n'a pas peur aussi de montrer ce qui est loufoque et la voix dans tous ses états. C'est bien aussi d'aller au-delà de la chanteuse classique.
Mais c'est bien de s'amuser, tout simplement, en fait.
D'être dans quelque chose d'un peu, avec la gouaille.
Voilà. Avec la gouaille. Alors, l'émission va devoir s'arrêter à un moment, malheureusement. Évidemment. Je serais bien restée un petit peu plus longtemps en ta compagnie. Mais en plus, le devoir nous appelle, donc il ne faut pas qu'on traîne trop. Je voudrais qu'on s'amuse au portrait chinois. C'est-à-dire que tu vas me répondre comme ça, tac, 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 aux petites questions que je vais te poser. Ok, c'est parti ? Allez, on y va. Si tu étais un animal imaginaire, qui serais-tu ?
Une chouette.
Ce n'est pas imaginaire.
Ah, mais c'est très imaginaire pour moi.
D'accord. Si tu étais un peintre ?
Goya.
Un paysage?
Ouessan, une île entre l'Atlantique et la Manche.
Et si tu étais une année historique?
1969. Premier homme qui marche sur la Lune,
Neil Armstrong. C'est logique. Voilà. C'est logique. Ouais. Si tu étais un moment de la journée,
Le soleil qui se couche en Bretagne.
Une salle de concert.
Buenos Aires, Teatro Colón.
Un opéra. Difficile, peut-être.
Dialogue des Carmélites.
Ah oui, sublime. Un artiste ou une artiste.
Charlie Chaplin.
Oui, artiste complet, ça on peut le dire. Si tu étais une compositrice ou un compositeur.
J'aimerais bien être Camille Pépin. Nouvelle compositrice extraordinaire.
Si tu étais un musée.
Le Prado.
Une œuvre d'art.
La femme qui pleure de Picasso.
Et toute dernière question, si, quel est ton trait de caractère? Ou si tu étais un trait de caractère, c'est pas tout à fait la même question.
Je crois toujours à l'impossible.
Merci Patricia. Merci beaucoup pour ce très agréable moment passé en ta compagnie. Pour terminer cette émission, je voudrais te faire un petit cadeau en forme de clin d'œil breton.
Ah !
Et nous allons diffuser un extrait des Variations sur des airs de Biniou, composé par Paul Lamiro, compositeur breton, on est à Nantes, je crois bien, et qui a été enregistré par le New York Philharmonic Orchestra, dirigé par Mitropoulos. Donc, la Bretagne s'exporte, et ça, c'est très bien.
Le Biniou, c'est formidable.
C'est fabuleux. Ouais, alors, on peut pas tout mettre parce que c'est un peu long. Oui. Si les auditeurs ont envie d'écouter la version tout entière, ils peuvent la trouver très facilement sur Internet. Donc, des Variations sur des airs de Biniou, composées par Paul Lamiro, compositeur nantais et donc breton. Enfin, là, quoique encore là, les Nantais et les Bretons. Bon, c'est pas toujours pareil, mais bon,
Voilà,
c'est
ça.
Oui, c'est très compliqué. En tout cas, c'est pas très loin de la Bretagne. Hein, la Bretagne.
Voilà.
Et donc, je remercie notre fidèle Francis aux manettes aujourd'hui pour réaliser cette émission. Chers amis, auditrices et auditeurs, merci de votre fidélité. Soyez heureux, chantez, vivez, riez et à très bientôt.